Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Votre journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La crainte à nouveau ce matin de l'embrasement au Moyen-Orient après la réplique d'Israël qui a attaqué l'Iran cette nuit. Selon les médias américains, les Iraniens minimisent complètement. Vous l'entendrez ce matin. La parole se libère dans l'armée. Trois enquêtes ouvertes pour des soupçons d'agression sexuelle et de misogynie à la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, Coëtquidan. Témoignage RMC. Et puis le jour d'après, à Marseille, en foot, Marseille qualifié en demi-finale de Ligue Europa au tir au but hier soir contre Benfica.
Et puis notez bien qu'à 8h30 dans le face-à-face, Neyla Latrousse va recevoir Mathilde Panot, la leader du groupe Insoumis à l'Assemblée, au lendemain de l'interdiction du meeting de Jean-Luc Mélenchon à Lille. À nouveau, la crainte d'un embrasement au Moyen-Orient.
Oui, moins d'une semaine après l'attaque des Iraniens, les Israéliens ont donc répliqué cette nuit, d'après les médias américains, en attaquant à leur tour l'Iran sur leur sol. La télé iranienne parle de trois explosions dans le centre du pays, des drones abattus sans faire de dégâts majeurs. Un autre média minimise complètement en disant qu'il n'y a même pas eu d'attaque. Tous les regards sont braqués maintenant sur Téhéran, c'est ce que nous dit ce matin sur RMC. C'est le général Jérôme Pellistrandi.
A priori, c'est terminé. C'était la réplique. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est maintenant la réaction de Téhéran. Est-ce que Téhéran va vouloir surenchérir là-dessus ou est-ce qu'ils vont, en quelque sorte, considérer que ça clôt le chapitre qu'ils avaient violemment engagé donc il y a une semaine.
Alors en attendant, il y a à nouveau la crainte ce matin de l'embrasement et de la contagion. Johanna Chabas.
Oui, selon les médias américains, les États-Unis avaient été prévenus de la riposte israélienne, mais ne l'avaient pas approuvée et n'ont pas joué un rôle dans cette possible attaque. L'ambassade américaine en Israël vient d'ailleurs d'ordonner à ses employés et à leurs familles de limiter leurs déplacements. Ils ne peuvent pas voyager en dehors de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et ce n'est pas le seul pays à prendre des mesures. L'Australie demande à ses ressortissants de quitter Israël et les territoires palestiniens, car les autorités craignent des représailles militaires et des attaques terroristes. La compagnie aérienne Fly Dubai des Émirats Arabes Unis a cloué au sol ses avions qui devaient aller en Iran. Les vols commerciaux à partir et à destination de Téhéran ont été un temps annulés avant de reprendre ce matin. Mais signe de l'inquiétude de toute la communauté internationale, le cours du baril du pétrole américain a bondi de 3% à l'ouverture des marchés asiatiques et les bourses européennes devraient connaître un net repli à leur ouverture.
Il est 8h03 sur RMC et la parole donc qui continue de se libérer dans l'armée. La suite du mouvement MeToo, trois enquêtes sont ouvertes pour des soupçons d'agression sexuelle et de misogynie à l'école militaire de Saint-Cyr, Coëtquidan, en Bretagne. C'est là que sont formés les officiers entre juillet et novembre l'année dernière. La parole se libère. Martin Cadoré, le correspondant de RMC en Bretagne, a recueilli le témoignage d'une élève en lycée militaire qui dénonce harcèlement et misogynie.
Elle rêvait d'intégrer Saint-Cyr. Annie était même admissible, mais sa prépa au sein d'un lycée militaire l'a dégoûtée. Exemple, alors qu'elle est aperçue avec son petit ami sur le campus.
Quand toute la compagnie se réunit pour faire l'appel, le commandant me prend à part et me dit quelque chose comme « c'est toi la pute qui t'es fait sauter dans une classe ».
Certains élèves lui infligent insultes et moqueries.
C'était du harcèlement quotidien des garçons de ma classe et au bout d'un moment, c'est très très lourd.
Mais la goutte d'eau viendra en fin d'année. Elle est supposée, avec quatre autres filles, faire partie de la garde au drapeau, un honneur réservé aux meilleurs élèves.
On a eu un nouveau chef de corps, particulièrement misogyne, qui nous a dit vous vous débrouillez comme vous voulez, mais la prochaine cérémonie, je veux qu'il n'y ait plus qu'une seule fille dans la garde au drapeau. C'est à ce moment-là que je me suis dit je veux absolument partir, même si c'était mon rêve de rentrer dans l'armée. Dans ma classe, du coup, en première année, on était 10 filles, il n'y en a qu'une qui est restée à la fin de l'année, toutes les autres, on a décidé de partir.
Annie l'assure, la hiérarchie militaire lui a demandé de se taire pour ne pas briser les carrières des élèves harceleurs.
C'est le reflet de ce qui va se passer ensuite à Saint-Cyr.
Guillaume Ancel, ancien officier, a écrit un livre sur l'omerta qui règne au sein de la prestigieuse académie militaire.
Là, on apprend à former des officiers à faire la guerre, mais aussi à se taire. Tout ça est d'un autre siècle.
L'Académie de Saint-Cyr, elle nous explique, appliquer une tolérance zéro en cas de fait répréhensible. Un élève a même été exclu en 2023.
Il y aura un rassemblement en fin de matinée à Grande-Synthe en hommage à Philippe, 23 ans, mort roué de coups il y a trois jours sur un parking du centre-ville par deux jeunes de 14 et 15 ans qui reconnaissent lui avoir tendu un guet-apens sur Internet. Face à cette affaire, cette nouvelle affaire de violence impliquant des adolescents, le Premier ministre Gabriel Attal a répété hier soir sur le BFM TV qu'il voulait rétablir l'autorité auprès des jeunes en sanctionnant les élèves perturbateurs, par exemple à l'école, sur leurs diplômes, des sanctions sur les diplômes brevets, bac ou CAP. Vous venez de l'entendre sur RMC, autre dossier du moment pour le gouvernement, la relocalisation de l'industrie de la santé, mise à mal par la vente annoncée dans le journal Les Échos de la marque de médicaments génériques Biogarant, qui appartient au groupe Servier, 900 références, 8600 emplois, 4 repreneurs potentiels, parmi eux 2 Indiens. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, affirme ce matin sur RMC que le gouvernement posera ses conditions.
La question aujourd'hui, c'est... est-ce qu'on aura des médicaments en France et est-ce qu'ils seront produits en France ? Moi, j'annonce aujourd'hui, je suis prêt à recevoir les acheteurs potentiels dans mon bureau pour expliquer les conditions auxquelles nous serions éventuellement prêts. Moi, j'ai dit clairement au laboratoire Servier que je ne souhaitais pas qu'ils vendent Biogarant. S'ils souhaitent le faire, moi, je serai extrêmement ferme et j'examinerai toutes les conditions qu'on peut imposer à une transaction.
Et puisqu'on parle de l'économie de la santé, tiens, ce chiffre alarmant ce matin, les comptes des EHPAD publics qui sont plus que jamais dans le rouge. 85% d'entre eux étaient déficitaires l'année dernière selon la Fédération française des hôpitaux qui a mené une enquête dans 730 maisons de retraite et qui demande une hausse des tarifs. Solène Gardry.
Dans le Val-de-Marne, les 5 EHPAD d'Emmanuel VI sont touchés par ce déficit record.
Ça fait plus de 20 ans que je dirige des établissements. C'est la première fois qu'on atteint des niveaux de déficit de cette envergure.
La cause, les hausses de salaire du personnel depuis 2 ans, mais aussi bien sûr l'inflation.
Il faut évidemment, pour le confort des résidents, monter la température de manière importante. Et on a constaté des hausses très très importantes sur les dépenses d'énergie. On a aussi les dépenses d'alimentation. On met en place des mesures pour essayer de limiter cette hausse, mais en fait on est très désemparés.
Il est donc complètement pour les mesures proposé hier par la Fédération hospitalière de France, qui demande à augmenter plusieurs tarifs de 5%, celui des soins, celui aussi de l'hébergement.
C'est pour éviter que la situation continue à se dégrader.
Explique Marc Bourquin de la Fédération hospitalière de France, une hausse qui devrait peu se répercuter sur le porte-monnaie des patients, en charge en partie de payer l'hébergement.
5%, c'est calé sur l'augmentation des pensions. Notre demande, elle est dans l'intérêt des résidents. Nous ne voulons à aucun prix baisser la qualité de service. La menace, elle est là.
La fédération réclame dans un second temps un refondement du modèle de financement des EHPAD publics.
Et puis, c'est une bien belle journée qui commence pour tous les supporters de l'OM en football, qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa en éliminant Benfica hier soir au tir au but au Vélodrome au terme d'un match renversant. À l'image de la saison de l'OM en fait, Florent Germain.
Oui, un match fou au cœur d'une saison pas comme les autres. L'OM est en demi-finale de Coupe d'Europe et personne n'imaginait une telle performance tellement tout aura été compliqué depuis l'été dernier. Une élimination au tour préliminaire de la Ligue des Champions, 3 entraîneurs différents, des réunions de crise avec les supporters. L'OM 9e de Ligue 1, frappé par des blessures en pagaille, a au moins gardé le caractère pour s'accrocher en Ligue Europa grâce à un Vélodrome qui n'a jamais lâché son équipe et avec un Jean-Louis Gasset qui a su ramener le calme et quelques bonnes idées tactiques dans la maison olympienne. Marseille se met à croire à un miracle puisqu'une victoire finale en Ligue Europa offre aussi une qualification directe pour la Ligue des Champions. Ce rêve passe par une demi-finale début mai contre l'Atalanta Bergame. Pas forcément de quoi faire peur aux Marseillais qui reviennent de très très loin cette saison.
Voilà, les demi-finales, les 2 et 9 mai contre l'Atalanta Bergame. Effectivement, c'est fini par contre pour Lille, sortie de Conférence League au tir au but hier soir par Aston Villa.
Et évidemment, on va partir tout de suite à Marseille, Quentin.
Allons-y.
Retrouver mon supporter de l'OM préféré. Mmh. Bonjour Eric Dimeco. Ah, il n'est pas là, me dit-on. Il n'est pas réveillé. Il va peut-être encore en train de boire un petit café.
Fête.
Oui, peut-être encore en train de faire la fête. On essaye de le joindre. Est-ce qu'on peut me dire si Eric Dimeco est réveillé? Ah, pas encore. Bah, on va essayer de l'appeler. Ah, on essaye de le joindre, me dit-on. Bah Eric, si tu nous écoutes, on essaye de t'appeler pour fêter ça. Mais là,
demi-finale, pas... les 2 et 9 mai, demi-finale OM Atalanta Bergame. Le match aller, ce sera à Marseille. Le match retour, ce sera en Italie. Il y a la Roma et l'Everkusen qui sont également qualifiés dans cette compétition.
Eh ben, ce sera donc à vivre, évidemment, sur RMC. Allez, il est 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et puis on va revenir sur les annonces de Gabriel Attal. Les élèves ont besoin de discipline à l'école. Voilà ce que dit la principale adjointe en Bourgogne, Fatia Agag Boudjalad. Elle soutient l'idée de Gabriel Attal d'inscrire le comportement des élèves dans leur dossier, notamment les élèves perturbateurs. Les sanctions les suivraient et pourraient les pénaliser pour l'obtention de leur diplôme. Son parti pris, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
À 8h13, on part tout de suite à Marseille, retrouver Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Charles, salut à tous.
Comment ça va ce matin Eric?
Bah écoute, il fait beau sur Marseille, le vent est tombé et les gens sont heureux. Voilà.
Mais oui, heureux parce que, bon, Eric, Je vais être objectif, moi. Tu connais mon penchant plutôt parisien. J'ai regardé le match. C'était pas fantastique d'un point de vue technique, mais alors au niveau émotion, comment dire, il y a une magie européenne dans ce club.
Ouais, c'est vrai que c'est récurrent. Hier après-midi, on en parlait justement, hein, que ce soit chez Jérôme Rotten ou dans le Moscato Show, où j'expliquais que ce stade-là, qui est déjà magnifique en Ligue 1, devenait un vrai volcan en Coupe d'Europe, et souvent ça agissait sur les joueurs qui se transcendent pour ce genre de compétition. Et on a vu hier malgré les carences de cette équipe-là tout au long de l'année, on s'est rendu compte hier soir que dans l'envie ils étaient au-dessus de Benfica et qu'on avait peut-être survendu même le niveau de Benfica finalement, parce que la victoire d'hier soir, elle n'est pas usurpée, hein.
Non, au contraire, et parfaitement mérité, mais il a fallu aller au bout du banc, même faire jouer des minots, là. Est-ce que ça peut tenir comme ça? Est-ce qu'on y croit, du coup, Eric, la demi-finale, la finale? Il y a ce match face à la demi-finale, c'est contre Bergame, hein, c'est ça, dans 15 jours, qui a sorti Liverpool, il me semble. Ça va pas être simple, mais en même temps.
Oui, mais après, un peu comme ton club de cœur, Charles, on se rend compte aussi que les planètes sont alignées, puisque tout le monde pensait que Liverpool allait partir en demi-finale facilement, allait même gagner cette compétition. À l'arrivée, ils se sont fait sortir. C'est-à-dire que l'Atalante, même si c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, parce que c'est une très très bonne équipe, il vaut mieux prendre l'Atalante que Liverpool, pour moi. Ouais. Donc les planètes semblent alignées pour peut-être encore une finale européenne. En tout cas, tout le monde en rêve ici. Ouais.
Tout le monde en rêve. Bah, Eric, oui, moi j'y crois. En tout cas, pour. Allez, on se projette, Eric. L'OM qui remporte la Ligue Europa. Je suis sûr que tu souhaites une victoire du PSG en Ligue des Champions. Et puis, du coup, Paris-Marseille en Super Coupe d'Europe.
Ah oui. Et pourquoi pas défiler ensemble aussi,
Main dans la main. Hein, oui, Eric.
Ben oui.
Rendez-vous est pris, en tout cas, Eric. On se retrouve, c'est fin août, je crois, à la Super Coupe d'Europe pour ce PSG-Marseille, une fois que les deux clubs auront vécu un fantastique printemps européen. Merci, Eric, d'avoir été avec nous ce matin en direct de Marseille à 8h15 sur RMC. C'est le parti pris.
Le parti pris.
Et là, cette fois, on part en Bourgogne retrouver Fatia Agagboudjalat. Bonjour, Fatia.
Bonjour.
Essayiste, principale adjointe dans un collège de Bourgogne, on vous connaît bien le matin sur RMC. Vous avez suivi hier les annonces de Gabriel Attal pour restaurer l'autorité, lutter contre la violence à l'école. Le Premier ministre voudrait notamment sanctionner les élèves qui perturbent le plus gravement les cours, les sanctionner sur l'obtention de leur brevet, de leur CAP, de leur bac. Ces élèves perturbateurs pourraient voir cette sanction, en fait, les poursuivre jusque dans leur dossier Parcoursup. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que ça donne plus de poids aux sanctions?
Mais bien sûr, c'est la seule façon de enfin responsabiliser les parents et les élèves. C'est quoi actuellement la situation? Vous prononcez une sanction, au bout de 12 mois, elle disparaît du dossier scolaire. Donc en fait, il y a un sentiment d'impunité et l'impunité crée le crime. De la même façon, dans les bulletins, on n'a plus le droit d'inscrire les avertissements ou les mises en garde de travail, comportement. Il faut le faire sur un feuillet annexe que les parents pourront faire disparaître et que et seuls les bulletins seront portés au dossier. Il faut qu'il y ait des conséquences. On ne parle pas de l'élève qui a commis un petit fait, voilà. On parle de poly-exclus. On parle d'élèves, il y a certains élèves, à eux seuls, ils concentrent 2/3 des sanctions. Ce sont des élèves ingérables, intenables, et qu'on nous demande de garder, quitte à ce qu'ils fichent en l'air la scolarité de leurs camarades. Et ça, c'est nouveau, surtout dans le premier degré. Dans le premier degré, il y a des parents qui ont manifesté parce qu'un seul élève violent empêche l'enseignante de travailler.
Dès le primaire. Et alors, autre annonce, à la rentrée prochaine, un contrat d'engagement signé par les parents et l'établissement. Un contrat qui rappellerait les droits et les devoirs des parents, le respect de l'autorité, les valeurs de la République. Parce qu'on l'a vu dans de nombreux cas, Fatia Agagboudjalat, ce sont désormais les parents qui remettent en cause l'autorité de l'école.
Ah mais c'est tout à fait ça. L'autorité, ça repose sur le consentement de ceux sur lesquels elle s'exerce. Ça repose donc sur la légitimité. Cette légitimité, elle est contestée d'abord par les parents. Et les mêmes parents qui viennent se plaindre de notre laxisme quand leur fils est victime, contestent tout. La moindre punition, la moindre retenue, les sanctions, ils font appel et les rectorats leur donnent souvent raison. Donc ça, ce serait une bonne chose à faire. Par contre, c'est comme la charte sur la laïcité, on l'a vite mise dans tous les carnets de liaison en partant du principe que à partir du moment où c'est dans le carnet de liaison et les parents signent le règlement intérieur, c'est qu'ils y adhèrent. Et comme ça, on n'a pas à les convaincre. Qu'est-ce qu'on va faire des parents qui refusent? On va recevoir 20 parents, 30 parents, 40 parents. et avec quel rapport de force à engager avec eux.
Gabriel Attal en a parlé hier, Fatih Aghagboudjala, il a dénoncé des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste dans les écoles, dans les collèges, des préceptes de la charia, a-t-il dit sur BFM TV. Le garde des Sceaux va prendre une circulaire pénale la semaine prochaine, a-t-il dit, pour que quand vous êtes agressé parce que vous ne respectez pas des principes religieux, ce soit retenu comme une circonstance aggravante, que ce soit en fait qu'on ne nie pas le caractère religieux dans certaines contestations, dans certaines violences à l'école.
Bah oui, avec Samara à Montpellier qui a été presque tabassée à mort, le procureur s'est dépêché d'exclure le caractère religieux. Là, ils étaient vraiment dans la démagogie pour acheter la paix sociale. Il faut le reconnaître. C'est un vrai souci, mais là, il y a eu un exemple en Bourgogne, un principal d'un collège à Saint-Georges qui organise un forum et des intervenants, donc qui exerçaient une activité pédagogique, des intervenantes d'une association sont venues voiler. Elles savaient très bien que ça poserait problème. Le principal, qui est par ailleurs formateur laïcité, leur a dit soit vous retirez votre voile, soit vous quittez le forum. Elles ont quitté le forum. Et le directeur académique a sommé le principal de s'excuser. Fort heureusement, le recteur a désavoué le directeur académique en disant que ce principal était légitime. Mais voilà, des fois, on doit se battre contre les parents, puis on doit se battre contre la hiérarchie.
Oui, c'est ça, le sentiment de ne pas forcément être soutenu dans ces décisions, ça fragilise un peu plus le principal, le proviseur, les enseignants, notamment sur ces questions de laïcité. Merci Fatih Aghagboudjala, essayiste, principal adjoint dans un collège de Bourgogne, d'avoir été avec nous ce matin dans le Parti Pris pour réagir aux annonces de Gabriel Attal. On attend dans les prochains jours donc cette circulaire pénale, notamment sur la question de la laïcité. Et puis évidemment, on suivra dans les faits toutes les annonces faites hier par le Premier ministre. Il est 8h20, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Voilà, Arnaud s'installe avec fracas. Salut Arnaud. Fraca.
Bonjour tout le monde. Bonjour Guillemette. Bonjour Victor. Arnaud. Bonjour la moustache de Victor. Bonjour, bonjour Sébastien. Et bonjour notre bon roi.
Oui, bonjour
roi Charles, votre majesté, souverain des audiences radio. J'ai vu les audiences de votre prématinale.
Oui.
Plus 40%, on m'a dit. Plus,
oui, bah, ce ne sont plus, pas mes audiences, ce sont les audiences. On remercie évidemment tous les auditeurs.
C'est bon pour vous. Ça, hein. Parce que chers auditeurs, on va tout vous dire. En fait, nos salaires sont indexés à nos courbes d'audience. C'est une tradition dans toutes les radios. Ça fait plus 40% sur la fiche de paye de Charles. Vous devez être riche maintenant.
Oui. Ouais,
c'est fini.
Bah ça...
C'est fini les loisirs de plouc comme le foot et le rap. Maintenant, c'est le concert de violoncelle. Et ensuite, vous irez jouer au croquet dans les jardins Bagatelle avec Stéphane Bern et Nadine de Rothschild.
Exactement mon programme du week-end.
Exactement.
C'est fou.
Ouais. Sachez-le. À l'actu, votre Altesse. Hier, Gabriel Attal a annoncé des mesures contre la violence des jeunes. Gabriel Attal, qui a lui-même 35 ans, il a 35 ans selon la police, 83 ans selon les syndicats. Le Premier ministre a dit, il n'y aura jamais dans notre pays de droit à tabasser, de droit à frapper. Eh ben, c'est très gentil. Pour faire baisser la violence, c'est une bonne mesure de ne pas donner le droit à tabasser. Et Emmanuel Macron souhaite un Grenelle sur les violences des mineurs après celui sur les violences conjugales. C'est un nouveau Grenelle, après tous les précédents, tous couronnés du succès que l'on sait. Vous avez remarqué, oh mon bon roi, dans ce pays, c'est soit un Grenelle, soit un numéro vert. Alors c'est quoi un Grenelle? Eh ben, c'est quand Emmanuel Macron se rend compte que ses idées marchent pas. Alors il demande celles des autres pour avoir quelqu'un sur qui rejeter la faute quand elles marchent pas non plus. Il est malin, hein? C'est subtil.
C'est subtil. Alors on vient d'en parler, en cas de perturbation à l'école, le Premier ministre propose donc de le mentionner dans le dossier Parcoursup.
Votre seigneurie, une mention que la presse a baptisée « mention fauteur de troubles » parce que le Premier ministre l'avait formulé un peu comme ça au départ, c'était pas clair. Mais en tout cas, je sais que si j'avais eu mon bac avec la mention « fauteur de troubles », ça aurait été ma légion d'honneur. Non, mais j'aurais primé à tous mes rencarts Tinder. Ah, tu sais que je suis mention fauteur de troubles. Ah là là, quel bad boy. Je sens la testostérone. C'est le genre de truc que tous les grands-pères ont envie de raconter à leurs petits-enfants. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais un rebelle. J'ai eu mon brevet avec mention sacripant. Et j'ai eu le bac avec mention jeune voyou. Et mon copain Fifi, il l'a eu avec mention fouteur de zbeul de l'espace. À l'époque, il n'y en a eu que 7 en France. On n'était pas nombreux. Oh, on était jeunes. C'était la folie. Moi, vous savez ce que je pense? Votre grandeur. Je pense qu'après, Pascal.
Ça me gêne tellement.
Ben, je sais.
Faut que tu t'y habitues. Il fait exprès.
Après Pascal le grand frère, ils vont lancer Gabriel le petit frère.
Ouais, vas-y.
Attends une seconde, on s'emballe. Donc aujourd'hui, Gabriel Attal est face à un jeune délinquant qui parle mal à sa mère.
Vas-y, maman. Il est en train de muer, c'est pour ça. Vas-y, maman, tu fais chier. Non, à l'autorité, j'écoute du Joule, je vais devenir un délinquant.
Quel délinquant. Gabriel, le petit frère, décide d'intervenir.
Écoute, Victor, tu me fais l'effet d'être un sacré fauteur de troubles. Alors je vais te dire une bonne chose. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Mais si tu te tiens à carreau, par contre, tu auras le droit d'effectuer un service national universel et d'aider les employés de ta municipalité à concevoir des activités pour les seniors de ton département. Voilà ta récompense.
3 jours plus tard, nos équipes retrouvent Gabriel ligoté dans un placard avec écrit sur le front un mystérieux FTG, FDP. Nos décrypteurs sont sur le coup. Gabriel, le petit frère. Premier et dernier épisode, ce lundi à 20h50 sur RMC Découverte.
Avec la participation donc du tout jeune Victor Jouanin.
Rebelle Victor Jouanin.
Le préfet de police a interdit un défilé de dromadaires et de chameaux samedi devant la Tour Eiffel.
Il a 103 chameaux et chamelles.
Sont-ils pas mignons, Simon ?
Eh ouais, sont-ils pas mignons, mon doux seigneur ?
Alors,
la Fédération française pour le développement des camélidés en France avait prévu ce défilé et la préfecture a dit non ! On va pas faire ça devant la Tour Eiffel, mais on vous propose le Bois de Boulogne. Alors l'organisateur a rejeté l'offre, le Bois de Boulogne ça n'intéresse pas, d'autant que c'est un coup avoir débarqué tous les pervers de Paris, demander c'est combien pour le faire avec un dromadaire. Mais vous savez, puissance HM, ces gens-là en général, ils ont expérimenté beaucoup de choses, on cherche des nouvelles sensations, un chameau. Pourquoi pas? Alors l'objectif de l'organisateur, je vous jure que c'est vrai, c'était promouvoir les camélidés qui subviennent aux besoins de millions de ménages vivant dans des environnements hostiles dans plus de 90 pays. Alors oui, 90 pays, mais pas la France. Hein, si t'as un problème en France et que le gouvernement te file un dromadaire, t'es pas plus avancé. Alors des associations estimaient que c'était pas bien de faire ça. Ils disaient les dromadaires ne sont pas adaptés à Paris. Il faut plutôt les mettre au milieu du désert. C'est exactement comme Anne Hidalgo en fait. Et c'est pas si simple d'être préfet. Parce que savoir si on va autoriser la manifestation de la CGT ou des gilets jaunes ou des dromadaires, chaque refus devient politique maintenant. D'ailleurs Charles, est-ce que vous connaissez la différence entre un dromadaire et un manifestant? Eh bien après une manifestation musclée, le dromadaire n'a qu'une bosse. Le manifestant, ah oui. 14. Ça doit faire bizarre une manif de dromadaire. Vous imaginez une manif de dromadaire, ça doit faire un truc du genre... Bah, c'est la fin de la semaine.
Incroyable imitation.
Ça va, c'est la fin de la semaine. Ah, ok, bah, si c'est comme ça, je me drape dans ma dignité et je monte sur mon dromadaire pour jouer mon spectacle de stand-up de qualité à Bordeaux. Ah. Voilà ce que je vais faire. Et oui, bordelais, vous avez vu, c'est de la qualité qui vous attend ce soir. Il y a des imitations de dromadaire et tout. Hein. En attendant, bon week-end.
À lundi, cher troubadour. On se retrouve lundi. Et
merci,
tout de suite,
mon bon prince.
Sur RMC et BFM TV, c'est le face-à-face. Néga Latrousse reçoit la leader des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Néga Latrousse.
Il est 8h32 sur BFM TV et RMC. Mon invité est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Bonjour Mathilde Panot. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous revenez de Lille où s'est tenue une conférence sur le thème de la Palestine. Conférence annulée qui s'est finalement tenue. On y reviendra. Mais d'abord, je voulais vous entendre sur ces explosions en Iran à Isfahan attribuées à Israël par des médias américains. Pas de dégâts majeurs, affirment les Iraniens. Les informations sont évidemment à prendre avec prudence. Mais d'ores et déjà, l'Australie exhorte ses ressortissants à quitter Israël. Les États-Unis, de leur côté, restreignent les déplacements du personnel diplomatique. Est-ce qu'il est encore possible d'éviter l'escalade militaire, Mathilde Panot?
Il le faut à tout prix pour que tout le monde comprenne ce qui se passe, si c'est effectivement avéré. Donc vous avez eu d'abord un bombardement sur le consulat iranien en Syrie de la part de l'État d'Israël et du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui a causé 16 morts. Puis ensuite, une réplique de l'Iran. S'il y a une réplique israélienne, où est-ce que ça s'arrête? Et c'est la grande peur que nous avons, c'est que l'escalade mène à la guerre régionale, même si les acteurs ne le veulent pas.
Vous craignez de nouvelles représailles iraniennes?
Écoutez, quand vous avez des répliques des deux côtés, où est-ce que ça s'arrête? C'est ça la question qui est posée. Et je regrette d'autant plus le vote des États-Unis hier au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a voté contre l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU et donc une reconnaissance qui aurait aidé justement à agir pour la paix. Heureusement, et je le salue, la France a voté pour, mais la France et Emmanuel Macron pourraient reconnaître unilatéralement l'État de Palestine.
Mais Mathilde Panot, vraisemblablement, on s'éloigne en tout cas du cessez-le-feu immédiat que vous réclamiez.
Écoutez, pour obtenir le cessez-le-feu, il faut maintenir la pression internationale sur Benjamin Netanyahou. La France a une responsabilité. La France pourrait reconnaître immédiatement l'État de Palestine. La France pourrait interdire la vente d'armes à l'État d'Israël.
Y compris dans ce contexte de représailles
mutuelles. Mais évidemment, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut avoir le courage de la paix. Le courage de la paix, c'est justement de dire, à un moment, il faut arrêter le génocide qui est en cours à Gaza. Et justement, ce qu'essaye de faire Benjamin Netanyahou, c'est aussi de détourner peut-être de ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Donc il faut augmenter la pression internationale parce que c'est le seul moyen de faire céder Benjamin Netanyahou sur ce qu'il est en train de faire, qui peut faire basculer toute la région.
J'en viens à ces deux conférences de la France insoumise annulées à Lille, puisque vous évoquez la Palestine. C'était l'objet même de ces conférences. Alors la première devait avoir lieu dans une université. C'est la présidence de l'université qui a pris la décision d'annuler par crainte de débordement. La seconde devait avoir lieu dans un lieu privé, et cette fois c'est le préfet, c'est-à-dire l'État, qui a décrété l'annulation avec plusieurs arguments, le risque de troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre déjà mobilisées par le plan Vigipirate Urgence Attentat et le match qui devait se tenir au stade Pierre-Mauroy. Jean-Luc Mélenchon a parlé d'abus de pouvoir, de république bananière. Est-ce que la France, pour vous, est une république bananière, Mathilde Panot ?
Écoutez, je crois que nous avons un grave problème démocratique qui a été à de nombreuses reprises condamné par des instances internationales. Rendez-vous compte qu'hier, en une journée, pour la deuxième fois, la conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été annulée.
Rima Hassan, candidate aux européennes sur la liste de Manon
Ombry. Ensuite, vous avez un syndicaliste qui est le secrétaire départemental CGT du Nord, qui a été condamné à un an de prison avec sursis pour un tract en soutien à la Palestine. Oui. Puis, vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche, un référé en cours, une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Je le dis sur la conférence, dans quelle démocratie, en pleine campagne électorale, des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté de réunion
avec la campagne électorale
et d'expression? Bien sûr. Dans quelle démocratie ça existe? Dans quelle démocratie?
Oui, mais sauf que je pourrais vous dire que finalement la conférence a eu lieu, mais dans une république bananière, en l'espèce, elle aurait été annulée et elle n'aurait pas eu lieu.
Oui, eh bien, si elle a eu lieu, c'est parce que nous avons tenu bon. Et je suis fière qu'il n'ait pas réussi à faire taire les voix de la paix. Et j'alerte solennellement à votre micro. Ceux qui se taisent, ceux qui ont des silences complices, peut-être par petits calculs politiciens ou quelle raison, ils se reconnaîtront. Tous ceux qui ne disent rien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les insoumis, demain, ça sera d'autres. Hier, c'était la LDH à qui on menaçait de couper ses subventions.
Avant-hier, c'était Éric Zemmour à Bruxelles, par exemple.
Les soulèvements de la Terre, je vais revenir là-dessus, les soulèvements de la Terre qu'on menaçait de dissolution. Donc, il faut s'indigner sur ce qui est en train de se passer et renforcer le camp de la paix, notamment le 9 juin, en mettant un bulletin de vote pour Manon Aubry.
Est-ce que vous faites un parallélisme entre l'interdiction de vos conférences et celle à laquelle devait participer Éric Zemmour à Bruxelles? Est-ce que vous dites, c'est scandaleux de la même façon, Marine Le Pen, Éric Zemmour doivent eux aussi avoir le droit de
prendre la
parole librement.
Je vais vous dire la différence entre les deux. Écoutez, tout le monde a le droit de s'exprimer dans le cadre du respect de la loi. Et la différence que nous avons avec M. Zemmour, parce que j'ai entendu M. Macron faire le parallèle de dire tout le monde a le droit de parler, ce qui est d'une hypocrisie
Emmanuel
absolue.
Macron, je suis pour ma part toujours favorable à ce que les gens puissent s'exprimer librement, quand bien même je combats leurs idées.
C'est une hypocrisie absolue, puisque les préfets n'agissent pas sans aucune autorité. Mais je reviens à M. Zemmour.
Vous dites qu'il était au courant et qu'il a validé l'annulation de votre conférence à Lille, pour que je comprenne bien.
Écoutez, les préfets dépendent d'une autorité, vous êtes d'accord? Donc les préfets ne prennent pas des décisions comme ça.
Mais tout ne remonte pas à l'Élysée.
Oui, si, ça remonte au moins au ministère de l'Intérieur, donc vous avez pouvoir
Panot,
politique qui est responsable.
Sérieuse. Vous soupçonnez par exemple le ministère de l'Intérieur et Emmanuel Macron d'avoir avalisé ou tout le moins d'avoir laissé faire et de s'indigner ensuite.
Mais écoutez, on en a parlé dans tout le pays, évidemment que ça remonte à l'Élysée, évidemment que ça remonte au ministère de l'Intérieur, et donc que nous avons une atteinte à la démocratie qui est extrêmement grave. Donc, la différence avec M. Zemmour, pour revenir sur votre question tout à l'heure, c'est que lui, contrairement à nous, est un délinquant multirécidiviste sur incitation à la haine raciale et injure à caractère raciste. Oui. Ce que nous n'avons jamais fait.
Mais
la liberté d'expression.
En président d'un mouvement politique.
Mais les limites de la liberté d'expression, c'est de respecter la loi. C'est ce que je dis.
Et donc, vous dites, nous respectons la loi, nous n'avons jamais été condamnés. Donc il n'y avait pas lieu d'annuler nos conférences.
Mais même pas que pour ça. Il n'y a pas lieu d'annuler nos conférences parce que, et c'est l'article 4 de la Constitution que vous connaissez, qui dit que les partis politiques et mouvements politiques ont le droit d'exercer leur liberté de réunion, d'expression publique, notamment lors des cadres de campagne électorale.
Mathilde Panot, puisque vous évoquez la Constitution, est-ce que vous allez en rester là sur l'annulation de ces conférences ou est-ce que vous allez porter l'affaire devant les juridictions compétentes si vous considérez que la Constitution n'a pas été respectée?
Alors, on ne peut pas directement saisir le Conseil constitutionnel et notre référé a été rejeté pour une raison simple, c'est que le tribunal a dit qu'il n'avait pas assez de temps pour statuer. C'est le gros problème démocratique d'avoir des interdictions qui tombent quelques heures avant un événement. Mais nous réfléchissons sérieusement à aller à une requête au fond et je le dis, ce qu'il faut d'abord, c'est un mouvement de la société, à la fois du monde associatif, du monde syndical, du monde politique, pour refuser ces atteintes à l'état de droit.
Vous avez des inquiétudes sur les futurs meetings, futures conférences à venir?
C'est la cinquième conférence. C'est la cinquième conférence qui a été annulée pour nous. La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon, avec Emma Fourreau, candidate elle aussi, sur la liste de l'Union Populaire, était annulée à Rennes pour un simple mail de menace avec la préfecture qui, cette fois-ci, avait dit qu'ils acceptaient de sécuriser l'événement et c'est la présidence de l'université qui l'avait refusé. Donc oui, nous sommes très inquiets de ces dérives démocratiques dans notre pays.
La question palestinienne, je le disais, au cœur de la campagne insoumise dans les sondages pourtant. Manon Aubry est crédité de 7% des votes. Les ouvriers font le choix de ne pas voter pour la liste des insoumis. Vous allez me dire que ce n'est que des sondages, mais 44% d'entre eux comptent porter leur voix sur le Rassemblement National et Jordan Bardella. Mathilde Panot, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à faire campagne sur des questions internationales, là où les préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la santé, c'est ce qu'ils répondent à chaque fois qu'on les interroge?
Eh bien, nous menons campagne sur les deux, Madame Latrousse. Et je dois le dire, c'est notre honneur de ne pas juste dire qu'il y a un génocide en cours à Gaza et ensuite de fermer les yeux, de rien dire, de rien faire. Nous continuerons.
Mais ça ne marche pas pour l'instant.
C'est l'honneur de notre humanité. Alors ensuite, sur les sondages, vous savez, une élection se joue le jour de l'élection. Et il se trouve que nous venons de saisir la Commission nationale sur la question des sondages parce que sur le sondage qui paraît tous les jours de l'IFOP, lorsque vous regardez, dans les échantillons qui sont faits, qui doivent être représentatifs, vous êtes d'accord pour pouvoir dire quelque chose du pays? Eh bien, il se trouve que le seul candidat sur lequel, quand vous demandez dans votre échantillon qui a voté Jean-Luc Mélenchon en 2022 et qui a voté les autres candidats, eh bien, il se trouve que dans les échantillons, Jean-Luc Mélenchon est à 13,8%. Ouais. Or, vous vous rappelez, nous avons fait quasiment 22%
donc,
l'élection présidentielle.
Vous dites que les sondages ne représentent pas vraiment...
Eh bien, je dis qu'à mon avis, les sondages ratent quelque chose dans ce pays et ils ratent quelque chose dans ce pays qui est notamment l'indignation des peuples et du peuple français vis-à-vis du génocide en cours à Gaza. Et ils ratent le fait que les gens comprennent que ce n'est pas juste une élection européenne, que c'est la seule élection nationale entre la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et l'élection présidentielle de 2027 et que donc c'est aussi le moment de dire non aux raquettes sociales sur les locataires de logements sociaux, sur les malades, sur les chômeurs, sur les retraités, sur les gens qui reçoivent les prestations sociales.
Mathilde Panot, parce que c'est vrai qu'on vous a beaucoup entendu sur la Palestine et pourtant vous avez raison de le dire. Enfin, dans votre programme, moi, j'ai regardé, les questions sociales sont même les premiers chapitres du programme aux européennes, avec notamment un plan européen que vous proposez pour éradiquer la pauvreté, de nouvelles taxes, notamment sur les plus riches, pour financer ce plan. C'est un point intéressant, cette taxe européenne sur les riches. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est au niveau européen que ça se joue, Mathilde Panot, et pas au niveau français?
Alors, c'est aux deux niveaux, mais comme nous sommes d'ailleurs les seuls à avoir présenté un programme complet pour les européennes pour l'instant, ce qui est quand même important quand vous concourez à une élection. Non, il est tout à fait capable de le faire, d'être fait au niveau français, mais évidemment que ça nous intéresse aussi de pousser des réglementations supplémentaires au niveau européen.
Parce qu'on voit bien, cette semaine, là où le débat s'est focalisé sur la rémunération, par exemple, de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, 100 000 euros par jour, ça fait 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. On a vu votre groupe à l'Assemblée proposer de plafonner les salaires, mais sauf que Stellantis, ils sont aux Pays-Bas. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous proposez au national des réglementations, des lois qui en réalité dépendent de l'échelon européen?
Alors non, parce qu'il y a des possibilités, par exemple, alors ils sont aux Pays-Bas, mais pour tout ce qui est en France, vous pouvez dire que l'écart de 1 à 20 doit se faire. Donc on peut faire des choses au niveau français et on doit pousser des choses au niveau européen. Mais il est d'ores et déjà possible de le faire. Et je tiens à dire que par exemple, c'est le Rassemblement National et la Macronie qui ont voté ensemble contre l'augmentation des salaires, contre l'indexation des salaires sur l'inflation et qui refuse, par exemple, cet encadrement des salaires, donc avec un salaire maximum de 1 à 20, d'écart de 1 à 20, ce qui est déjà, pour moi, très généreux, et qui refuse même d'interdire les licenciements, même lorsqu'une entreprise et une multinationale fait des bénéfices. Et je voudrais vous parler de Sanofi, Sanofi qui est un fleuron, vous savez,
De
l'industrie pharmaceutique.
Qu'est-ce qui se passe, Sanofi, Mathilde ?
Les champions des licenciements. À Sanofi, il se trouve qu'il y a déjà 10 000 chercheurs, 10 000 postes qui ont été supprimés depuis 2008.
Ça, ils veulent je décris supprimer. Pour ceux qui nous entendent sur RMC, vous venez de brandir un tract Sanofi.
C'est monsieur Oudéa qui est
des licenciements,
président du conseil d'administration.
Je suis en train de lire avec la CGT Sanofi en logo.
Alors donc, 10 000 postes supprimés depuis 2008, des centres de recherche qui ont été fermés. Et là, Sanofi vient d'annoncer qu'ils allaient abandonner la recherche sur l'oncologie, c'est-à-dire le traitement des cancers, dans un moment où nous en avons impérativement besoin. Je crois que les gens meurent toujours de cancer. Et que donc, plus de 300 postes vont être supprimés, notamment à Vitry-sur-Seine, mais aussi à Montpellier et à Gentilly. C'est une honte, d'abord pour la souveraineté souveraineté de la France en termes de santé, mais c'est aussi une honte parce que nous donnons de l'argent public et que nous continuons avec des gens qui ont donné 4 milliards d'euros aux actionnaires et qui continuent à licencier. Mathilde, et bien ça, par exemple, ce sont des règles qu'on pourrait se doter et dire on interdit les licenciements dans ce cas-là.
Mathilde Panot, j'aimerais vous entendre sur les mots du patron de Michelin. Le SMIC n'est pas un salaire décent. Dit le patron de l'entreprise, ça a dû vous faire drôle d'entendre un patron parler comme vous.
Eh bien oui, d'ailleurs je salue le fait qu'il explique justement qu'on ne peut pas vivre dignement du SMIC, ce que nous nous cessons
Mais ça montre que tous les patrons ne sont pas voyous aussi.
Ah mais bien sûr, mais nous n'avons jamais dit ça, nous demandons des règles, nous demandons que ça ne dépende pas justement du bon vouloir d'un patron. Je salue le fait que le patron de Michelin le fasse, qu'il montre que c'est possible d'augmenter, de multiplier par 1,5 voire par 3 le SMIC pour pouvoir vivre dignement, mais j'ai surtout vu le bal des hypocrites que c'était lorsque Bruno Le Maire a tweeté qu'il saluait la décision du patron de Michelin et qu'il a tweeté la question des salaires est décisive alors que ce sont les mêmes qui, par un simple décret, auraient pu depuis 7 ans augmenter le SMIC.
Gabriel Attal hier était l'invité exceptionnel de BFM TV 100 jours après sa nomination à Matignon. Ce qu'il dit, c'est l'essentiel, c'est la progression salariale. Il n'a pas voulu commenter la phrase « le SMIC n'est pas un salaire décent ». Il dit travailler d'ailleurs sur un système, je cite le Premier ministre, qui fasse que ça coûte moins cher aux patrons et aux salariés d'augmenter le salaire, surtout quand on est proche du SMIC pour désmicardiser la France. Est-ce que vous faites confiance à Gabriel Attal ?
Absolument pas. Regardez le chaos dans lequel ils nous ont mis depuis 7 ans. Nous sommes la 7e puissance économique au monde et pourtant nous avons un élève sur 5 qui sont en situation de pauvreté. Pourtant nous avons une explosion d'enfants qui sont à la rue.
Salaire.
Oui, mais c'est une explosion de la pauvreté généralisée. Vous avez un Français sur 3 qui déclare qu'il ne mange pas à sa faim. Donc ces gens auraient pu depuis 7 ans faire tout autrement et notamment nous écouter plutôt que de supplier, de demander aux entreprises, eh bien ils auraient pu tout simplement augmenter les salaires, c'est ce que nous demandons, et faire une conférence sur les salaires pour qu'ensuite ça suive. Donc je ne suis pas d'accord avec les petits ajustements au même moment où on nous annonce 56 milliards d'économies en moins de 2 ans et où, on veut faire partir des locataires des logements sociaux, où on veut s'en prendre aux malades, où on veut s'en prendre aux chômeurs. C'est inacceptable et c'est révoltant.
Vous évoquez l'école, il y a eu ces mots choc de Gabriel Attal hier sur, dit-il, l'entrisme islamiste à l'école.
Vous avez, dans beaucoup d'endroits en France, des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste. Et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. Vous avez en face de vous le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a pris une décision importante, interdire le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires. Sur ce sujet-là, je peux vous dire que ma détermination, elle est absolue.
Gabriel Attal qui évoque des groupes qui essayent d'imposer la charia à l'école, dit-il, qui prônent les préceptes de la charia, notamment dans les écoles. Pour le citer rigoureusement, est-ce qu'il parle comme le Rassemblement national, Mathilde Panot ?
En tout cas, il promeut les mêmes solutions politiques que le Rassemblement national, que ce soit l'uniforme à l'école, que ce soit l'école du tri social avec le choc des savoirs où on va trier les enfants dès 11 ans, que ce soit le système de tout sanction où à la fin, vous vous retrouvez dans un pays où le pouvoir a décidé de se protéger des enfants plutôt que de protéger les enfants.
Mais est-ce qu'il a tort sur le fond d'une espèce d'emprise islamiste qui conduit à ce qu'une petite fille, Samara, 14 ans, soit agressée, sa mère évoquant expliquant le harcèlement dont elle était victime de la part d'adolescentes plus pratiquantes.
Le procureur a dit que ça n'avait rien à voir avec un fait religieux.
Une jeune fille de 13 ans prise à partie parce qu'elle ne faisait pas le jeûne. Chemseddine à Viry-Châtillon, parce qu'il parlait avec une fille et que son entourage a considéré qu'il pouvait là y avoir une atteinte à l'honneur de la famille.
Alors, plusieurs choses. D'abord, ils sont en train de donner une définition à la laïcité, à la jeunesse, qui est détestable. Quand vous demandez, c'est Jean Bobéro qui dit ça, quand vous demandez à la jeunesse quelle est la définition de la laïcité, il vous donne une liste d'interdits et pas du tout la question de la liberté de conscience et comment est-ce qu'on vit ensemble. C'est un problème sur le dévoiement de la laïcité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il aime dire tu casses, tu répares. Eh bien, ils ont tout cassé dans ce pays. La protection de l'enfance, avec pour l'aide sociale à l'enfance, 40% des jeunes de moins de 25 ans qui sont à la rue, qui sont des anciens enfants placés, avec seulement 13% des enfants placés qui ont leur brevet des collèges, alors que c'est 80% en population générale. Plus de la moitié des mineurs, des jeunes femmes mineures qui se prostituent, qui sont à l'aide sociale à l'enfance. J'étais dans la Vienne il y a quelques jours où des éducateurs spécialisés, vous savez, étaient en train de manifester parce qu'on va leur supprimer 5 postes.
Mais vous ne me répondez
pas
sur 400
jeunes. Si, je vais vous
répondre. Vous ne prenez pas le terme entrisme islamiste.
Non, pas du tout.
Mais comment est-ce que vous qualifiez cette succession d'incidents dans des collèges, dans des lycées?
Eh bien, je vais vous dire, quand une société se déstructure, alors la société devient beaucoup plus violente. Et quelle est la solution? Eh bien, c'est la question de la prévention, de la présence humaine. Il faut des psychologues scolaires, des médecins scolaires, des infirmières scolaires. Il faut des assistantes sociales, des AED, alors qu'ils ont supprimé encore 1000 postes. Mais arrêtez, ce n'est pas le problème principal de l'école.
Non, mais c'est un problème. Est-ce que vous dites... c'est un problème.
Mais écoutez, si ça arrive, c'est un problème. Mais dans ce que vous m'avez cité, notamment Samara, sur lequel l'extrême droite s'est jetée, et je veux lui apporter tout mon soutien aujourd'hui, eh bien, ça n'a rien à voir, ça a été dit par le procureur, ce n'est pas la France Insoumise qui le dit, ça n'a rien à voir avec des choses religieuses. Ce qu'est en train de faire Attal est révoltant. Il essaye de soumettre la jeunesse en recyclant les pires idées de l'extrême droite. Eh bien, je vais vous dire, ils doivent commencer par eux-mêmes, parce que le premier parent irresponsable, c'est l'État. Je vais vous parler de la protection enfance. Dans la Vienne, dans un seul département, c'est 400 jeunes et leurs familles qui ne pourront plus être accompagnés parce qu'il n'y a plus d'éducateurs de rue. Il n'y a plus aucune présence humaine nulle part. Donc, on déstructure tout. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et notamment en remettant des moyens. L'éducation nationale est à l'os.
Mathilde Panot, est-ce que ce sont des choses que vous irez dire à Gabriel Attal, puisqu'il vient d'ouvrir une concertation pour 8 semaines sur la question de la violence, l'hyperviolence des mineurs? Est-ce que vous allez participer à sa concertation?
Je n'ai aucune idée comment est-ce qu'il va faire cette concertation, mais je vais vous dire quelque chose qui me semble important, Madame Latrousse. Il se trouve qu'il y a une représentation nationale qui existe, avec un Parlement sur lequel nous pouvons voter, parlementer, discuter sur les orientations politiques du gouvernement, et c'est d'ailleurs le rôle des parlementaires, y compris de contrôler l'action du gouvernement. Donc maintenant, ça suffit de faire des grands débats par là, de faire des grands débats par-ci. Nous savons ce qu'il faut faire. Vous avez vu le nombre d'agressions qu'il y a parce que des gens ont des troubles psychologiques. Vous avez vu ce qui se passe sur la souffrance.
Donc vous n'êtes pas sûr d'aller à la concertation
mentale.
De ce que je comprends, voir.
Je lui demande de venir à l'Assemblée nationale. Ce n'est quand même pas extraordinaire dans une démocratie de venir à l'Assemblée nationale et de demander un vote des parlementaires. Voilà ce que je lui demande. Et je lui demande d'arrêter. Aucun pédagogue n'est d'accord avec le fait qu'on prône la soumission absolue à toute autorité ou sinon la punition. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une question, c'est pas ça le projet de l'éducation nationale et c'est ce que je dénonce dans les annonces extrêmement violentes qui ont été faites par Gabriel Attal.
Et vous avez été entendu, Mathilde Panot, plus de moyens pour l'école, plus de moyens pour accompagner les familles
et pour la protection,
de l'enfance. Merci d'être venu à ce micro ce matin, Mathilde Panot. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bientôt 8h53 sur RMC et BFM TV. Bonne journée à vous, bonne journée à tous.
Merci Neyla. Dans un instant, les grandes gueules sur RMC. Avec vous, Olivier Truchot. Quel est le programme aujourd'hui, Olivier?
Eh bien, on va revenir sur les déclarations de Gabriel Attal hier soir sur BFM et le matin, hier matin, à Viry-Châtillon. Il veut un sursaut d'autorité. Il fait plusieurs propositions. Il met sur la table des pistes. Est-ce qu'on y croit à ce sursaut d'autorité? On va en débattre avec nos GG du jour, l'économiste Frédéric Farah, Zora Bitan et Antoine Dierce. À tout de suite.
A tout de suite, Olivier, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour les grandes gueules.